Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Voilà, bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle émission et on va parler de ce dernier match qu'il y a eu hier soir avec l'Angleterre qui a battu au tir au but la Colombie dans un match assez compliqué et assez terne. On a vu pas trop de jeu, pas trop d'action, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, une chaleur assez étouffante je pense pour les deux équipes. On sait que les Anglais n'aiment pas la chaleur et ça leur a pas du tout servi pendant ce match-là. La Colombie, ils ont été très limités avec James qui était absent malheureusement en tribune. Et au niveau des titres des journaux, c'est une satisfaction. Comment ils voient ça en fait les journalistes anglais?
Alors là c'est le West Ham Daily Press. Ils ont titré Finally England win a penalty shot. Parce que c'est vrai que en Angleterre ils ont une certaine malédiction, j'ai envie de dire ça, une poisse, c'est qu'ils perdent toujours au penalty.
Ouais.
Donc là, pour eux, c'est carrément c'est un bon signe pour le reste de la compétition, parce que pour une fois qu'ils passent, alors c'est des pénalties. Mais bon, on va pas dire qu'ils ont vu un grand match, hein, les Anglais. Ils ont plutôt vu un match un peu foireux dans la mesure où ça manquait de réalisme, surtout de la part de Lingard. C'est vrai qu'il a eu pas mal d'actions en première mi-temps, je crois. Quand il y a eu 1-1, ils se sont dit si il avait réussi à concrétiser ces actions-là, on n'en serait pas. Bon, maintenant, c'est le foot, hein.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai. Oui.
Mais est-ce que, je veux dire, l'Angleterre est contente de son équipe ou c'est plus. On va dire qu'ils vont essayer de les supporter jusqu'au bout, mais qu'ils y croient beaucoup moins aujourd'hui qu'avant ce match-là, hier soir?
Alors, c'est vrai qu'avant ce match-là, ils étaient confiants. C'est vrai qu'avec une Colombie plutôt impressionnante, hein, sur certains points meilleurs que l'Angleterre, ils ont eu une petite période de doute. Bon, c'est clair que pour eux, le match en lui-même, il était très compliqué, mais ce qui ressort des Anglais, c'est plutôt le soulagement de la victoire, on va dire. Bon, maintenant, c'est clair que par rapport à la Suède, comme ils l'ont dit, ça botte la Suède, mais bon, comme on a vu le parcours de la Suède, terminer premier, sortir du groupe où il y avait quand même les derniers champions du monde en titre, l'Allemagne, je pense déjà que ça va être un match beaucoup plus compliqué. Parce que c'est vrai que la Suède, comme on a pu voir dans ces matchs, c'est une très bonne équipe, hein. On pensait que sans Ibrahimovic, ça allait être une autre équipe. J'ai l'impression qu'ils jouent même mieux sans Ibrahimovic. Et c'est ce que les Anglais pensent. Donc, samedi, ce sera un match beaucoup plus compliqué. Donc, voilà.
Ouais, mais est-ce que par exemple l'équipe du Brésil ou l'équipe de Belgique font peur à l'Angleterre, ou maintenant l'Angleterre se dit maintenant qu'on est là, on va essayer d'aller au bout, comment au niveau de l'état d'esprit des joueurs, etc., comment on parle de cette équipe-là dans les médias?
Ah, dans les médias, bon, déjà ils ont un très grand respect pour le Brésil, hein, plus par rapport à son histoire, hein, et que ça reste quand même le Brésil, hein, c'est une Coupe du Monde, c'est une Coupe qui les affectionne. Ils affectionnent énormément.
Ouais.
Maintenant, pour le jeu, je l'avais dit précédemment dans certains podcasts, c'est que le Brésil reste une très bonne équipe en Coupe du Monde. Maintenant, elle fait moins peur. Mais ça reste quand même le Brésil, donc on est quand même sur nos gardes. On s'attend, en tout cas, si jamais il y a Angleterre-Brésil, ce sera un gros match. Hein, ils peuvent faire peur, ça reste quand même le Brésil en attaque. On sait jamais, les Brésiliens sont un peu imprévisibles sur le coup, parce que à chaque fois on dit qu'ils sont moyens, mais ils arrivent quand même à être là où ils sont aujourd'hui, quoi. Donc il y a un moment, on peut plus dire que c'est de la chance. Il y a ce petit coup de ce petit Joga Bonito, hein, bon, même s'il est moindre par rapport à aux éditions précédentes, hein, je parle de l'époque de Ronaldo tout ça, bon.
Ouais.
Mais ça reste quand même le Brésil, quoi. Donc s'ils sont là, c'est certainement pas un hasard. Ils peuvent toujours avoir un déclic et prouver que ils sont là où ils sont et c'est grâce à leur talent.
Mais c'est quand même dingue parce que finalement l'Angleterre par rapport aux équipes qu'elle va rencontrer jusqu'à la finale, eh bien ça serait la Suède et puis la Croatie ou la Russie. Alors moi je sais pas pourquoi mais j'ai le pressentiment que la Russie va atterrir en demi-finale parce que les Croates ils ont l'air bien exténués par leur compétition. Un peu comme à l'Euro 2016, vous avez commencé trop vite, trop fort, et ils s'étaient essoufflés en huitième. Et là, à mon avis, contre la Russie, qui défend super bien, qui a battu l'Espagne. Aïe. J'ai l'impression que la Russie va pas être loin de la finale. C'est une Coupe du Monde quand même assez dingue au niveau des demi-finales et des quarts de finale, des équipes qui étaient pas du tout là dans les années d'avant.
C'est vrai. C'est vrai que, concernant la Russie, comme la Suède ou la Croatie, déjà, les bookmakers s'en mordent les doigts parce qu'ils ne s'attendaient absolument pas à voir ces équipes-là à ce stade de la compétition. Ouais. C'est une chose à souligner. Deuxièmement, c'est vrai que la Russie, bon, au-delà du fait que ce soit le pays organisateur, la Russie a prouvé que on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour juste organiser la Coupe du Monde. Ils ont quand même proposé un jeu assez défensivement, ils étaient très solides. Et puis, au niveau de la relance, ils ont montré qu'ils étaient là. Il y a un de leurs joueurs, l'attaquant, qui fait partie des meilleurs buteur de cette édition, donc j'ai oublié son nom, hein. C'est pour ça que...
Ouais.
Mais il joue au Real, je crois, je sais plus, en russe.
Ouais, il y avait Tcherichev, il y en avait d'autres après. Ben.
Voilà, et donc voilà, je pense que cette équipe de Russie, parce que poussée évidemment par le peuple russe, hein, et non, ils peuvent en effet hein, battre la Croatie, et ouais, ça pourra se jouer, ouais. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, hein. Angleterre, Russie, et là, c'est vrai que pour l'Angleterre, si en tout cas ils affrontent la Russie, ça va être compliqué.
Ben, mis à part 2010, voilà, mais si on regarde les Coupes du Monde 98, 2006, 2014, eh bien, à chaque fois, bah, le pays hôte allait en demi-finale, même 2002, oui. Où t'as la Corée du Sud qui va en demi-finale. Donc, on dirait que maintenant, si oui, tu veux, quand t'es pays hôte, bah, c'est demi-finale minimum. enfin, sauf ouais, 2010, quoi.
Non, c'est vrai. Bon, maintenant, je veux juste rajouter une petite précision concernant 2002 avec la Corée du Sud par rapport à l'Italie, c'était quand même louche.
Oui, bon. Très très. Bah, on a su par la suite que l'arbitre qui avait arbitré ce match-là et l'arbitre qui avait arbitré aussi l'Espagne pour éliminer l'Espagne, je crois qu'avec l'Italie c'était un arbitre des Philippines et il avait été retrouvé à l'aéroport avec une mallette remplie de dollars dans sa mallette en cash, quelque chose comme 100 000 dollars ou je sais plus combien il avait eu dans sa mallette. Enfin, il avait été arrêté à la douane.
Ceci explique cela. Ouais. Moi j'ai. De ce match-là, quand j'avais retenu, j'étais très énervé parce que bon, moi j'aime beaucoup l'Italie, hein. Ouais. Et c'est vrai que là, sur ce match-là, non, on peut pas tricher comme ça. Hein. Je voulais pas trop revenir là-dessus, mais c'est vrai que quand même.
Ouais. Non, on est d'accord. Hein, de toute manière, que la Coupe du Monde 2002, c'est une des pires de l'histoire. On a même plus envie de la regarder ni revoir des matchs. Hein, c'était n'importe quoi, une Coupe du Monde qui commence au mois de mai, qui finit le 30 juin.
Et puis les matchs, ils étaient super tôt, avec le décalage horaire, il fallait se lever une certaine heure. Ça, c'était à 10h, c'était impossible. Je me rappelle, pour ma part, j'étais au collège, c'était impossible.
Les gens au travail, à 10h du matin, comment tu veux voir un match c'est ta première heure de travail, tu vas pas arriver au travail en disant « Attendez, il y a un match de foot, on va regarder. » Faut faire le travail avant. Tu peux pas... Quand c'est 17h, à la limite, voilà, bon, t'es au travail, le patron, il peut mettre une télé, c'est la fin de journée, ok. Mais là, c'est compliqué, hein. Mais le Japon avait joué le jeu dans cette Coupe du Monde, le Japon s'était fait sortir en 8e, c'était Philippe Troussier, leur coach à l'époque, et ils avaient joué le jeu, tu vois qu'eux, ils avaient pas les arbitres dans la poche, ni les soupçons de dopage, voilà.
Non, mais c'est vrai que les Japonais sont quand même disciplinés, hein. Bon, après, je vais pas rappeler, mais après le match contre la Belgique...
C'est pas des tricheurs dans l'arme.
Ah non, mais ouais. Même, ils ont tout nettoyé leur vestiaire, ils ont mis un mot, spasiba, qui veut dire merci en russe, pour dire merci pour l'accueil, mais ils ont vraiment tout nettoyé, ils ont pas laissé, comme certains vestiaires de certaines équipes nationales, ils ont vraiment tout nettoyé, vraiment, ils sont vraiment disciplinés, c'est vraiment dans leur culture, on sent qu'il y a quelque chose de... Voilà.
Ouais, il y a du respect par rapport aux autres, et par rapport aussi à... Comment dire, aux gens qui les accueillent, c'est surtout ça.
Ouais.
Ils sont pas chez eux, ils ont une notion de respect par rapport au territoire d'un autre, etc.
Non, c'est vrai.
c'est dans leur culture, ils apprennent ça tôt, je pense. Mais même les supporters hein, en tribune qui font des tifos avec des confettis, etc., bah, ils ramassent tout à la fin. C'est vraiment des gens disciplinés. Un peu trop, malheureusement, parce que, ouais, on peut parler de ce match-là, c'est certain que Belgique-Japon, des Japonais qui gagnent 2-0 et qui se font revenir au score 3-2 en deuxième période, puis se prennent 3 buts, ça fait vraiment mal, parce que ils avaient le match, pour une fois qu'ils pouvaient atteindre des quarts de finale d'une Coupe du Monde en battant une grosse équipe, ils auraient marqué leur histoire, et là, ils se retrouvent encore éliminés en huitième, c'est...
Moi j'ai regardé le match en direct. Quand j'ai vu la contre-attaque, je me suis dit aïe, je la sens pas. Quand j'ai vu le but, je me suis dit ça c'est des délires à la Olivier Tom, hein, je veux pas dire ça, mais bon. Mais des matchs comme ça où tu vois qu'il reste une minute, tu vois une contre-attaque, tu la vois comment elle va se construire. Tu dis la dernière passe, c'est sûr, il y a but et c'est ce qu'il y a eu d'ailleurs. Quand tu revois l'action, c'est une action d'école. Tu sens qu'il va y avoir une contre-attaque et un but. C'est trop bien lancé, c'est trop bien ficelé la Belgique sur la contre-attaque. Une touche de balle.
Et comme on dit certains observateurs, le joueur le plus important de cette contre-attaque, bah, c'est Lukaku, parce que c'est lui qui permet justement le décalage sur l'arrivée de l'attaquant, je crois que c'est De Bruyne ou je sais plus qui. Et ensuite, on lui fait le centre, il touche pas le ballon, il laisse passer la balle pour l'autre qui vient derrière, et c'est génial, parce que tout est fait dans l'intelligence.
Ils ont même pas traîné, tu vois, ils ont vraiment été classiques, une touche de balle.
Si on peut en parler, ça, sérieusement, je crois que Thierry Henry, il y est pour beaucoup dans ce quator offensif belge avec Hazard, Lukaku, De Bruyne, Mertens, etc. Ouais. Même si Mertens, il a pas été bon sur ce match avec le Japon, j'ai trouvé. Je pense qu'il y est pour beaucoup dans le progrès et l'efficacité de l'équipe belge dans les attaques. Parce que si on se souvient de l'Euro 2016 où ils se font sortir par le Pays de Galles dans un match où ils ont été ridicules, tu te souviens, c'était à Lille, le match. Et on avait rigolé de ce match-là avec en plus Thomas Meunier à la fin du match qui dit « Je comprends pas, nous on était les Galactiques, on était plus forts que tout le monde, on n'a pas le droit de se faire éliminer », mais c'était la blague belge, quoi.
Ce qui est bien avec cette équipe-là belge, quoi, qu'on a, c'est que les quatre joueurs qui jouent bien en attaque, il suffit qu'il y en ait un qui soit pas très bien, les trois peuvent assurer. Donc c'est assez compliqué à gérer pour une défense, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a une alchimie quand même entre ces quatre attaquants. C'est pour ça que je dis que le Brésil, il faut qu'il fasse attention, hein, qu'il pense pas que ce sera une partie de plaisir comme en 2002. Ouais. D'ailleurs, ils avaient gagné que 1-0 ou 2-0. Et là, cette équipe de Belgique, je pense qu'elle pourrait même battre le Brésil. On pourrait même avoir une petite surprise si les Brésiliens prennent la Belgique ce match 3 à la légère.
Ouais.
Je pense, vu comment ils ont joué là dernièrement, les Belges, ils ont la niaque quand même.
Ah, mais ça va être, de toute manière, moi j'en suis certain, hein, Brésil-Belgique, c'est une finale avant l'heure, et ça va être le plus beau quart de finale de ces 4 matchs, hein, à mon avis. Hein. Parce que France-Uruguay, je suis désolé, mais l'Uruguay, si la France est patiente, ils vont peut-être marquer en deuxième période, les Français, avec un 0-0 au début, mais ils vont gagner, les Français. Moi, je les vois pas perdre. L'Uruguay, ils sont épuisés. Ils ont battu un Portugal à bout de tous leurs efforts. Cavani va pas jouer.
Cavani, on sait même pas, d'ailleurs.
Il jouera pas, c'est pas possible. Ouais. Blessure musculaire, en 3 jours, en 4 jours, c'est pas possible. On avait vu Diego Costa qui avait essayé de se faire marabouter avec du plein certain de jument. Avant la finale de la Champions League en 2014, là avec l'Atlético, ça n'avait pas marché. Lui, il avait pris un mois carrément. Donc, une blessure musculaire, c'est la pire blessure dans le football. En plus, c'est préjudiciable pour le Paris Saint-Germain, parce que si Cavani agrandit sa déchirure qu'il a au mollet, ça va être très compliqué pour rejouer avant le mois de décembre. Hein. Il va falloir faire septembre, octobre, novembre. Ça peut durer 2-3 mois une blessure comme ça. Hein. C'est très très long. Hein. Je pense pas qu'il va prendre le risque. En plus, s'il veut se faire transférer, c'est une autre histoire. Le PSG, s'ils veulent revendre le joueur, ils vont pas revendre un joueur blessé, etc. Enfin, ça va être. C'est une histoire un peu plus politique que sportive, à mon avis. Mais même si, dans le sportif, dans la science, tu peux pas guérir quelqu'un qui a une lésion musculaire comme ça, quoi. C'est pas possible.
C'est compliqué.
Aussi rapidement. Donc voilà, la Belgique, moi j'ai trouvé bon l'entrée de Fellaini. Alors Fellaini, je pense qu'il était prêt à se faire chambrer par toute la Belgique après sa pub qu'il a faite sur le salon de fitness en Belgique. Je sais pas si t'as vu ça. Tu l'as pas vu sur les réseaux sociaux?
Si, j'ai vu.
Ouais, mais je me suis dit, mais attends, lui, il a pris un gros risque, hein, parce que si jamais ça marche pas là, où ils sont éliminés, et en plus il rentre dans le match et qu'il est pas bon, il va se faire démonter par la presse belge et tout. Et puis ça a été un des héros de la qualification, donc tant mieux pour lui, avec cette tête qui pique sur un centre là, je sais plus si c'est un corner ou un centre, mais il a été le déclencheur de la remontée, quoi, on va dire, hein, avec Fellaini dans sa rentrée, parce que le coach belge, il le fait rentrer à un moment où, sincèrement, il y a 2-0 et tu penses pas qu'ils vont revenir. Hein.
Bah non, c'est ça, ça que j'aime dans le foot, c'est que des fois tu penses que le match il est plié et puis après. Il suffit juste que l'entraîneur adverse, je sais pas, il fait un bon coaching. Et, ouais. Tout peut t'arriver, hein.
Ouais. C'est la différence. Ah, c'est certain. Bah, par exemple, je trouve que l'entraîneur de l'Argentine a été catastrophique et c'est à cause de lui l'élimination, hein. Parce que si tu mets Agüero sur le terrain, etc., et les autres, là, Higuaín surtout. Ah, mais alors là, non. Je pense que c'est un autre match. Rien,
cette équipe d'Argentine, c'est vraiment un gâchis parce que.
Total.
En plus, à un moment, l'entraîneur, il a demandé, c'était filmé. Il a demandé à Messi si Agüero pouvait rentrer. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui est maître de, enfin bon. Il demande Messi, est-ce que tu veux que Agüero vienne t'aider? Carrément. Ouais. Donc, c'est fort. Enfin, je veux dire, on est même plus dans une, maintenant, c'est le joueur qui fait la loi. Il faut maintenant, chacun est à son poste. Il faut, je sais pas, ils sont où les grands entraîneurs qui...
Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est mais ça, dans quelle logique, tu demandes à un joueur qui a jamais eu de conscience tactique sur un terrain, qui a tout fait par des exploits et son talent individuel, à quel moment tu vas lui demander de présenter une tactique défensive ou de contre-attaque pour une équipe en perdition, quoi, dans une Coupe du Monde? C'est ridicule, quoi.
C'est Dybala. Franchement, Dybala, il aurait dû le faire jouer. Je sais pas, moi, Dybala... Dybala, je sais pas. Toi, t'aurais vu comment l'équipe d'Argentine en formation? Tu l'aurais mis comment?
Bah déjà, quand t'es une équipe, on dit toujours que le 4-4-2 c'est la meilleure solution quand tu es une équipe assez bancale et pour équilibrer les lignes, il faut à tout prix que voilà t'es 4 milieux et 4 défenseurs surtout. Donc après il reste plus que 2 attaquants et ça te permet de gérer les contre-attaques. Si jamais tu perds le ballon au milieu de terrain, t'as toujours tes 4 défenseurs. Malheureusement, si tu joues toujours en 3-5-2 ou tu fais un 4-3-3, bah tu vas avoir tout de suite un déséquilibre évident sur des phases de jeu et ça va être beaucoup plus compliqué avec des joueurs qui sont pas talentueux et très techniques. Et en défense, bah ça, je pense que l'Argentine, s'ils avaient joué en 3-5-2, ça aurait été un suicide contre la France. Ils se seraient pris, je pense, un 6-2 ou un comme la Suisse en 2014 là. Ils se seraient fait démonter, quoi. Alors que là, ils ont un peu limité la casse, mais voilà, ils auraient pu faire beaucoup mieux, hein, c'est certain.
Non,
hein.
Non, c'est... Est-ce que tu penses pas que Messi, il peut jouer la Copa América l'année prochaine?
Non. Moi, je pense que Messi, là, sincèrement, il en a bavé, il en a beaucoup
sur la conscience. J'ai l'impression, là, même pendant cette Coupe du Monde, là, il n'y avait pas d'envie.
Non.
Son visage...
Pour moi, il va arrêter. Ouais, il va le dire bientôt, il va arrêter.
Ouais, non, mais il suffit pas d'être psychologue ou je sais pas quoi pour savoir dans son visage. Non, il n'était pas dedans. On dirait qu'il était même pas en Coupe du Monde.
Même aux hymnes nationaux, il avait la main sur la tête, il était fatigué,
ouais, il était
disait
pas dedans,
putain, je suis encore là, ça va être une catastrophe. Ouais. Il sentait la défaite déjà, c'est un mec qui sentait la défaite arriver pour son équipe.
Et après, quand il va venir en Espagne avec le Barça, il va encore nous faire des exploits. Mais moi, je suis argentin, comment j'aurais la haine. Je veux dire, là, il brille. Ouais. Et quand il s'agit de jouer pour nous, et après, il va dire qu'il est meilleur que Maradona. Enfin, tu vois comment ça peut être dans la tête des Argentins. Ils vont se dire, t'aurais dû être espagnol, en fait.
Ouais, non, mais de toute manière, ouais. C'est une génération de football en Argentine où t'as pas des grands joueurs en défense au milieu de terrain comme il y avait à l'époque avec les Simeone, les Véron, les Cambiasso.
Oh, Véron. Qu'est-ce que j'aimais, Samuel.
Zanetti qui a été le capitaine emblématique de l'Argentine pendant des années. Il y a plus de milieu de terrain en Argentine, tu peux pas l'inventer, quoi. Tu vois des mecs comme Fadio, Meza, il y avait qui encore, enfin,
Véron.
Non mais aujourd'hui là, l'équipe d'aujourd'hui, C'est des mecs qui jouent en Argentine dans des compétitions où ils font même pas de, ils vont pas très loin en Copa Libertadores ou etc. Armani, le gardien, il a remplacé Caballero qui a été catastrophique. C'est un mec qui a deux sélections en équipe d'Argentine quand il arrive quoi. Enfin, il fait une Coupe du Monde avec deux sélections, ses deux premières sélections. Tu peux pas jouer en huitième en ayant deux sélections, c'est pas possible. Je pense pas, par exemple, que la Belgique, il soit aussi mauvais dans la stratégie que l'Argentine. Il y a beaucoup plus de collectifs, etc. Il y a plein d'individualités qui jouent ensemble. La Belgique, tu sais, sur ce match-là contre le Japon, ils ont failli se faire avoir parce qu'ils ont voulu gérer le match et gagner par 1-0 vers la fin tranquillement. Sauf qu'ils se sont pris deux buts et ils se sont dit, attends, là on va mettre le coup d'accélérateur, on peut pas se faire éliminer encore. Moi dans leur tête, j'ai vu ça, je me suis dit, enfin ils se sont dit, on peut pas se faire éliminer, c'est pas possible. On peut pas se faire éliminer parce qu'à l'Euro on a été ridicule, si on se fait sortir encore là alors qu'on doit aller en finale, on va se faire pourrir par tout le monde. Ils pouvaient pas rentrer au pays comme ça tout de suite.
Non.
Ça aurait été terrible.
Non mais même, de toute façon, Messi, c'est dommage de partir comme ça. Hein. J'ai l'impression que je pense que tout le monde va ternir un peu ça.
Ternir son image de footballeur.
Je pense parce que déjà ses détracteurs lui reprochent de ne pas évoluer dans un autre club pour voir s'il est aussi chaud.
Ouais.
Alors, en plus, si ce n'était que ça, on pourrait dire bon, il est fidèle à son club, ça bien, c'est un bon exemple de fidélité. Bon, là, à la limite, mais c'est en équipe nationale. Tu vois, là, c'est vraiment un autre niveau où, justement, les grands joueurs, on les reconnaît tous. Même pour un novice qui n'aime pas le foot, il va dire, bon, je vais essayer de, je connais pas le foot, mais la seule chose que je vais regarder, c'est la Coupe du Monde. Voilà. Imagine un mec qui se ramène, il dit, je connais pas le foot, je regarde la Coupe du Monde. On dit, Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Il regarde Messi, il dit, mais vous rigolez. Tu vois?
Non, mais ça, c'est les journalistes aussi, tu sais. Il y a beaucoup de journalistes qui adorent dire, oui, c'est le meilleur joueur du monde pour un peu argumenter leur, voilà, ils ont dit dans le papier, voilà, que ça allait être un grand match, donc il fallait qu'ils trouvent aussi des arguments, etc. Et malheureusement, on sait qu'un individu tout seul avec des gens à côté qui n'ont pas le même niveau que lui, ça fait pas gagner une équipe, hein. Quand tu vois l'équipe du Japon qui a pas de star et qui arrive à aller plus loin que l'Argentine dans le collectif, dans l'esprit du jeu, même s'ils se sont fait sortir, actuellement, si tu veux, le Japon, dans la logique, c'est plus fort que l'Argentine aujourd'hui.
Mais bien sûr. Non, mais tu te rends compte que quand même Messi et Cristiano Ronaldo, c'est 3 ou 4 éditions de Coupe du Monde et aucune Coupe du Monde.
Mais combien alors il va lui en falloir comme... Combien il...
Non, mais tu vois, alors qu'à l'époque, moi je parle plus de l'époque 90, à Ronaldo, je parle du Brésilien, au moins une ou deux éditions, il y en a une, il était en finale, l'autre... Il l'a gagné, Zidane, il a gagné une Coupe du Monde, l'autre il était en finale, tu vois, il y a quand même, je sais pas.
Non, mais il n'y a pas de secret, tu sais, il y a un truc tout bête, c'est que les grands joueurs, en général, dès leur première Coupe du Monde, quand ils sont dans un grand pays de football, ils arrivent en finale et ils gagnent la Coupe du Monde. Souvent c'est ça, quand tu vois Maradona en 86, bon il a joué 82, mais 86, il avait une grande sélection avec lui, il a été en finale, il l'a gagné, 58 est appelé, voilà, qu'il la gagne. Je veux dire, t'as Zidane aussi en 98, souvent quand t'as un grand joueur dans une grande nation de football, tu vas en finale et tu la gagnes, la finale.
Messi, pourquoi ça n'arrive pas avec Messi et Cristiano, je ne comprends pas, ils ont pourtant rien à envier aux anciens, vraiment, et pourtant ils n'y arrivent pas à cette compétition.
Tu vois l'Angleterre de 66, t'avais certains bons joueurs aussi à l'intérieur, voilà.
Bobby Moore,
qui sont allés en finale tout de suite et qui l'ont gagné. Il y avait beaucoup moins de tours à passer pour aller en finale à l'époque, mais t'avais quand même une concentration de très bons joueurs comme Eusebio, etc.
Ça, je ne comprends pas.
Ouais, voilà. Malheureusement, après, la Coupe du Monde 2006, elle était un peu bâtarde parce qu'on se retrouve en finale avec l'Italie, voilà, qui a pas fait non plus des grands matchs, et puis qui arrive en finale et qui la gagne par le caractère. C'était, comme on avait dit en début d'émission, c'était une nouvelle génération qui commençait à arriver en 2006.
Bien sûr.
Et tous les anciens étaient un peu sur le départ. Mais même, tu vois, hein, l'équipe d'Allemagne, j'ai revu certains matchs de l'équipe d'Allemagne de 2006, et ben ils sont pas flamboyants du tout hein, dans le jeu. Hein. Je sais pas si toi, t'as souvenir... ils se font éliminer logiquement 2-0 par l'Italie en prolongation, là, ou avant les prolongues, je sais plus, à Dortmund, en demi-finale. Mais ils sont pas très bons, l'Allemagne, dans cette Coupe du Monde. Hein. Il y a des matchs, vraiment, à part le match d'ouverture où ils collent un 5-2 ou un 4-2 à l'Équateur, un truc comme ça, là, ouais. Mais c'était pas génial, compliqué. Hein.
Ouais, non, c'était pas... Non, c'était compliqué pour l'Allemagne, en 2006 en plus. Bon, c'était en fin de parcours pour certains joueurs. Balak, il jouait sur la dernière Coupe du Monde, je crois.
Ouais.
Si je ne me trompe pas. Donc... Après, il y a un renouveau, mais même quand tu regardes la génération d'aujourd'hui, je sais pas. Par exemple, toi, tu vois qui pour remplacer Cristiano Ronaldo et Messi, tout en... Comment dire, tout en faisant des 4 ou 5 saisons au top. C'est ça que je veux dire. On va pas retourner à une période où un jour joue une bonne saison et la saison d'après plus rien. Un peu comme Kaka qui a fait une super saison en 2007 et après plus rien. Est-ce qu'on va être plutôt dans une époque comme ça ou je sais pas, c'est dommage.
Bah, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment de très grands joueurs qui se dégagent d'une équipe. Parce que aussi, dans les grandes équipes d'aujourd'hui, on a prôné à tout prix le collectif sur l'individualité. Et malheureusement, si tu veux, tu as beaucoup moins de joueurs qui se dégagent d'un collectif aujourd'hui qu'à une certaine époque. Au Real, tu as beaucoup d'individualités qui sont vieillissantes. J'aurais dit, si tu veux, un Modric ou peut-être à la Juventus, un Dybala, mais on le fait pas assez jouer, etc. On sait pas vraiment ce qu'il vaut. Moi, je pense plutôt au niveau de l'Angleterre. Je pense qu'il y aura une star émergente à un moment donné. Là, on cherche un Mohamed Salah, on cherche à lui donner le côté héréditaire des Cristiano et des Messi à Mohamed Salah. Mais lui, il a rien demandé. Il a fait 6 bons mois. Déjà, c'est bien pour lui qu'il continue comme ça.
Ouais, qu'il continue.
Mais je pense pas qu'il puisse persévérer dans ce côté-là superstar. Parce que il a fait beaucoup de clubs, hein, Mohamed Salah, hein, depuis. Hein. Je sais pas si t'as compté tous les clubs qu'il a fait. Mais c'est là.
Il a fait Chelsea, il est parti, ouais, il est parti pas mal de.
Il a fait la Roma, ouais, voilà. Ouais. Et à un moment donné, je pense que ce joueur-là, il a du mal à se stabiliser, il joue beaucoup par émotion et moins par talent, etc. Il va te sortir des exploits individuels par moment pour qualifier une équipe, mais je sais pas si sur une année entière il peut faire ça. Parce que...
C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, ça qui m'inquiète, c'est que bon, on se plaint de Cristiano Ronaldo Messi, mais pendant 10 ans, ils ont fait kiffer. Ils ont fait vraiment rêver, je veux dire, cette rivalité de voir 40 buts, 50 buts par saison. Ouais. Et Salah, par exemple, là, il a fait une bonne saison, il a marqué 47 buts en tout. Bon. Est-ce qu'il est capable de remarquer 47 buts fois 5 saisons?
Le dire, j'y crois pas du tout, en fait.
Mais voilà, tu vois, il y a des trucs, je me dis, tout le monde dit Salah, c'est le meilleur, même les médias anglais, tu penses bien, je suis en Angleterre, ouais. Là, ils s'éclatent. Mais je leur fais comprendre que, d'accord, bonne saison, ça là, moi j'ai rien à dire sur sa saison. Maintenant, est-ce qu'il est capable de réitérer cet exploit-là sur 5, 7, 8 ans? Parce qu'on a eu l'habitude pendant 10 ans de voir ça. Est-ce que on va pas s'endormir? Est-ce qu'on va pas s'ennuyer avec le foot parce que quelqu'un fait ça une saison? On attend sa quatrième saison pour refaire une autre comme ça, tu vois?
Je pense que là, il y a un joueur tout simplement qui va profiter du fait que ces joueurs-là sont en fin de carrière, bah c'est Neymar. Neymar, malgré le fait qu'il soit, ça soit pas un joueur qui est constant dans ses performances, il est très bon à chaque fois qu'il joue, mais il loupe beaucoup de matchs. Et je pense que ce joueur-là, bah, grâce à son talent, ça va lui suffire pour atteindre le Ballon d'Or peut-être dans les 12 mois qui vont arriver ou peut-être pas cette année ou peut-être cette année. Mais je pense que ça sera plus Cristiano encore cette année, à mon avis.
Ouais, parce que cause, ouais. Ouais. Mais franchement, Neymar, c'est comment dire, je le vois pas au niveau d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi, mais disons que c'est ce qui se fait de mieux.
Oui, oui, juste en dessous, c'est ce qui se fait de mieux.
Exactement. C'est pas qu'il est super, c'est juste que c'est ce qui se fait de mieux, tu vois. C'est-à-dire, au milieu des aveugles, les bornes sont rois. Moi, je pense que c'est plus ça, Neymar. Non, vraiment. C'est-à-dire que, ok, il fait des petites roulettes par-ci par-là, mais c'est pas comme si on en avait jamais vu, surtout la génération d'avant. Mais je veux dire, même le comportement de Neymar, il a 26 ans, il se comporte comme Cristiano Ronaldo en 2006 qui avait 22 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, qui plonge, qui.
Ah non, mais il est immature dans son jeu.
On l'a. Ouais, il est bon. Mais t'as vu comment tout le monde se moque de lui sur internet? Il tombe par terre, tout le monde se roule par terre. Enfin,
Le meilleur qu'on ait vu, c'est à l'hymne national dans un dessin animé. Là, l'hymne national, t'as Marcelo qui le touche et il est par terre en train de se rouler.
Mais voilà, moi je supporte pas ça.
C'est génial.
C'est-à-dire, je ne parle pas du joueur, encore une fois, qui est prometteur. C'est un moment qu'il est prometteur, hein, mais bon. Et là, le comportement, je n'y arrive pas. C'est-à-dire, pour moi, son comportement, c'est anti-jeu. C'est-à-dire, c'est moi la star. Et en plus de ça, je simule, en plus, il est victime de la comparaison avec ses prédécesseurs.
Mais comme on disait, le Brésil, c'est une équipe qui s'est un peu dénaturée au niveau de son style de jeu un peu typique brésilien, quoi, européen, avec des passements de jambes, etc. C'est devenu une équipe européenne, un peu à l'efficacité allemande, parce que si tu reviens sur le match du Brésil-Mexique, les Brésiliens sont qualifiés, mais il n'y a pas eu d'extravagance dans le jeu. Ils ont mis deux buts, ils n'ont rien fait d'autre. C'était très chiant à regarder, moi j'ai trouvé.
Ouais, exactement. Moi je ne conçois pas un Brésil que tu regardes, tu te poses devant la télé, t'es là, tu manges, ou fais ce que tu veux. Et le jeu, il est comme ça, c'est pas possible. Après, on va me trouver un peu rétro, mais moi quand je regardais le Brésil à l'époque, mais je sautais, il y avait quelque chose qui me faisait aimer cette équipe.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est non. Et je la regarde, je me dis, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Je me dis, je suis un peu, je suis pas surpris par cette équipe. C'est-à-dire, elle gagne, je me dis, ouais, mais ce qui compte pour eux, c'est le résultat, en fait, au final. C'est même plus de savoir si on joue bien, si on a du beau jeu, Non, c'est le résultat, on a gagné 1-0, c'est bon, on s'en fout de, voilà.
Ouais, exactement, ouais. Un peu comme certaines équipes ont fait lors des derniers matchs, hein. T'avais le France-Danemark qui était moche, t'avais le Croatie-Danemark aussi, encore une fois Espagne-Russie. Toutes ces équipes voulaient gagner par 1-0 et puis elles se sont fait reprendre à la dernière minute pratiquement. En Colombie-Angleterre, c'est l'exemple parfait. C'est vrai qu'on a commencé à parler dans cette émission de Colombie-Angleterre, on a divergé vers un autre sujet. Mais je veux dire, l'Angleterre, c'est une équipe qui a voulu gagner par ce score minime 1-0 en gérant les efforts. Ils se sont retrouvés en prolongation au tir au but.
Ouais, tir au but.
Et finalement, contre la Suède, la Suède va être une équipe redoutable pour eux parce que ça joue pas à la Suède. Ça va être compliqué de marquer des buts contre eux, à mon avis. Hein. Et imagine, en demi-finale, on a un Suède-Russie. Alors là, ça serait quand même incroyable des équipes classées à la plus de la 50e position au FIFA.
C'est ça qui est hardcore, parce que c'est vrai que tout le monde a risque de rester dans les mémoires, parce que déjà, Poutine, il a vraiment fait le boulot, hein. Je veux dire, de surprendre tout le monde, vraiment, il a vraiment dit, il montre vraiment que là, c'est la Coupe du Monde, c'est-à-dire que les Scandinaves, voilà. Ouais. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont de l'Est, nous on est là, hein.
Non, mais il a fait un beau tableau où juste, non, un beau tirage de poule où tu pouvais pas tomber avec le Brésil, l'Allemagne, etc., dès le début.
Ouais.
Dès les huitièmes, et puis on se retrouve avec un arbre hyper facile pour la Russie jusqu'à la finale. Si ils avaient juste le match de l'Espagne à gérer, c'est tout. Après, c'est des équipes à leur niveau, voilà. Moi, je trouve que la Croatie, finalement, c'est pas l'équipe qu'on attendait encore une fois. Ils ont une chance de les battre. Là, si la Suède se qualifie pour la demi-finale, franchement, ça serait une grosse surprise. Hein. Ça serait pas, je dirais pas que ça serait mérité, parce que si tu bats l'Angleterre, c'est que tu mérites d'aller en demi-finale. Mais au niveau du jeu, je sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Hein. À mon avis, ils vont pas proposer grand-chose, hein, les Suédois. C'est triste à dire. La Colombie, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. Ils ont eu de la chance d'égaliser. Ils méritaient pas forcément. Même s'il faut dire, sur ce match-là, l'arbitrage a été un des plus mauvais que j'ai vu en Coupe du Monde, sur cette Coupe du Monde-là. Comment tu l'as trouvé, l'arbitre américain, sincèrement, Geiger, il s'appelait, je crois. Il a pas donné de carton à aucun Anglais. Il a donné beaucoup de cartons aux Colombiens.
C'est ce qu'a reproché Falcao dernièrement après le match. Il a critiqué l'arbitre en disant qu'il était son origine a favorisé les Anglais. S'il a sous-entendu, bon, il a pas dit comme ça, mais c'est du moins ceux qui sont un peu pertinents ont compris.
Ah, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu de carton jaune donné à certains joueurs qui ont fait des grosses fautes avec des pieds appuyés sur les chevilles, etc. Souvent les doubles contacts qu'il y avait entre deux joueurs, c'était le Colombien qui prenait le carton jaune et pas l'Anglais. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses vraiment très litigieuses dans ce match-là. Hein. Quand on parle aussi de l'Argentine-Nigeria, où t'as un penalty qui est pas accordé pour le Nigeria, alors que t'as une main argentine en pleine défense devant toutes les caméras du monde, alors que le même penalty est accordé pour un autre joueur dans un autre match avec.
Ça fait quand même beaucoup, hein.
Mais tu sais que dans cette compétition, il reste plus que deux équipes d'Amérique du Sud, hein, c'est tout, hein. Et il y a que des équipes européennes, hein. T'as la France, la Russie, la Croatie, la Suède, l'Angleterre, et Brésil et Uruguay, c'est tout. Oui, hein. C'est quand même, c'est pas équilibré au niveau du partage des nations. Il y a plus personne.
Comme je t'ai dit, hein, si quelqu'un m'aurait dit qu'il y aurait, m'aurait prédit un tableau comme celui-là, je n'aurais pas cru, je dis, c'est pas possible.
Tu savais qu'il pouvait avoir des choses bizarres à la fin parce que le tableau des poules a fait que tu n'avais pas forcément des têtes de série dans les derniers groupes de cette Coupe du Monde. Donc, ça pouvait que finir comme ça d'un côté. Hein, et puis les gros qui se rencontrent dès le début, moi je trouve ça c'est du gâchis, comme tu dis. Hein. C'est vraiment dommage. Quand tu vois la France, l'Argentine qui se rencontrent, il aurait dû avoir aussi un Portugal-Croatie, t'aurais eu de la casse aussi dès le début, tu vois. Et puis un Brésil-Allemagne, il aurait pu avoir aussi.
Brésil-Allemagne, ça aurait été intéressant.
Ouais. Ouais. Mais l'Allemagne n'était pas bon cette année, de toute manière. Ils ne méritaient pas d'aller plus loin, les Allemands.
Non, ils ont pas donné. En plus, moi, ce qui me gênait un peu, c'est qu'ils ont compté sur Kroos.
Oui, oui.
Et quand on en vient à porter tous tes espoirs sur un milieu central, milieu défensif même, je sais pas. Comme s'il n'y avait pas d'attaquants.
Il n'y en avait pas. Hein. Tu peux re-regarder la liste des 23, il n'y en a pas. Il n'y en a que deux.
Non, c'est pour ça, tu vois. Si on en vient à mettre tous les espoirs sur Kroos, alors qu'on voit bien que le Real de Madrid, il est surtout au centre, il n'essaye pas de faire la différence. En 2014, c'était pas la même. On comptait pas sur Kroos pour faire la différence tout le temps.
Mmh. Tu vois. Je crois sincèrement que dans la logique, tu devrais avoir un Croatie-Angleterre en demi, et de l'autre côté, un France-Belgique, moi je vois. Moi, je vois pas le Brésil passer. Et supposons une chose, imaginons aujourd'hui que le Brésil se fasse sortir en quart de finale. Est-ce que pour toi, ça serait une catastrophe ou ça serait normal?
Franchement, vu comment le Brésil a joué, moi je suis très critique par rapport au Brésil, par rapport aux années précédentes. Hein, donc franchement, je dirais, honnêtement, je ne serais pas surpris dans la mesure où, vu le jeu qu'ils ont proposé, hein, je ne parle pas du score, le jeu qu'ils ont proposé, c'était moyen.
Ouais.
Par rapport à la Belgique, hein. La Belgique, je suis désolé de dire ça, bon, on va dire c'est les Belges, tout ça, mais non, moi je regarde sur le terrain, je fais abstraction de leur nom, de leur historique. Non, je regarde le jeu de la Belgique.
Depuis le début, ils sont bons.
Ben oui, une touche de balle, tu vois, ça joue, c'est beaucoup plus clean, hein.
Ouais.
Le Brésil, c'est à la recherche de sa frime. Il y a un peu de frime, il y a un peu de, on est brésilien, c'est bon, on est là, on est chaud. Non.
Ils mettent trop de temps à construire leur jeu, les Brésiliens. Ouais.
Exactement.
Les Belges, c'est fluide.
Exactement. Non, ça ne m'étonnerait pas. Je ne serais pas surpris. Hein. Ouais. Honnêtement, je dirais, vu le parcours, les matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent, je ne suis pas surpris.
Imaginons, t'as Neymar qui se fait sortir en quart de finale. Il s'est fait sortir aussi avec le PSG en huitième de finale contre le Real. Il a fait une année vraiment plus que moyenne, vu qu'il a été blessé aussi. Il a commencé à rejouer au foot il y a deux semaines. Et il lui reste, on va dire, 3-4 mois pour avoir un ballon d'or en jouant contre Dijon, contre Strasbourg. Est-ce que sincèrement, tu crois qu'il va avoir un ballon d'or en jouant contre ces équipes-là?
De toute façon, Neymar et ses prédécesseurs lui ont bien dit. Hein. Je pense que déjà, ses prédécesseurs n'aiment pas le PSG. Ça, c'est une certitude. Ils l'ont dit. Tant que tu seras au PSG, tu n'auras jamais un ballon d'or. Ne cherche pas à... Parce que pour eux, même la FIFA, ça fait tâche pour Neymar. Regarde bien à chaque fois depuis qu'il est au PSG. Cite-moi une seule fois où la FIFA n'a pas fait une équipe type et il n'est même pas dedans.
Ouais.
Alors qu'à l'époque, il était avec... Il y avait Cristiano, Messi, Neymar en pointe, tu vois.
Ouais.
Maintenant, c'est Cristiano, Messi, Ken, ou alors c'est Cristiano, Messi, Salah. Cristiano, Messi, Intel. Neymar, il est effacé parce qu'il est au PSG. C'est le PSG qui fait tâche pour la FIFA.
C'est plus les concurrents du PSG en championnat qui font tâche, voilà.
Oui, voilà, c'est exactement. Mais ouais. Je veux dire, tu vois, c'est, par exemple, si le PSG était en Liga, ce serait mieux. S'ils étaient en Première Ligue, ce serait mieux. Ça ferait déjà. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, je pense que Neymar, parce qu'il a l'étiquette du PSG, au niveau de la FIFA, au niveau de l'historique du PSG par rapport au Real, au Barça, ça fait tâche pour lui. Ça, c'est.
Ah, on est d'accord, on est d'accord. Mais la FIFA s'est pas trop trompée hein, sur Harry Kane, parce que finalement, Harry Kane, on disait qu'il était surcoté en Angleterre, mais regarde là, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement, c'est un des joueurs clés, même si hier il a pas été bon, parce que de toute manière, le mal des Anglais, ça a toujours été ça, c'était la chaleur. Dès qu'il fait chaud, ils ont du mal, mais ils ont du mal, c'est un truc de fou. Alors moi je prie pour eux qu'ils pleuvent pendant leur prochain match, et là ils vont être bons, et ça il fera plus frais. Mais Harry Kane, 6 buts. Cristiano, il avait 4 buts aussi.
Ouais. Non,
je disais Cristiano, c'est dommage qu'il s'arrête en 8ème parce qu'il était parti sur des bases énormes au niveau des buts. Tu vois, il avait 3 buts contre l'Espagne, etc.
Voilà. Non, en fait, si tu veux, Harry Kane, bon, déjà, au-delà du fait qu'en Angleterre, c'est le héros national, hein, ça, impossible de le critiquer en Angleterre actuellement. Hein, parce qu'il faut rappeler que Harry Kane, à l'Euro 2008, c'était la risée des médias. Hein. Non, parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça que voilà, c'est les médias aussi jouent un rôle important dans Harry Kane. C'est-à-dire, à l'Euro 2016, il loupait tous ses coups francs.
Il était pas bon.
Non, vraiment, il était dégueulasse.
Mais le coach lui a dit, le coach, arrête de tirer les coups francs, tu sais pas les tirer, il le fait plus.
Oui, voilà, on l'avait critiqué, on l'avait charrié. Bon, aujourd'hui, il s'avère que, en plus d'avoir fait une bonne saison avec Tottenham, hein, qui est une petite équipe, hein, donc c'est déjà bien de se faire remarquer quand t'es dans une petite équipe. Ça veut dire déjà t'as un petit potentiel quand même d'être dans une petite. Puisqu'on parle de ça là, il est Liverpool quand même. C'est quand même pas dégueulasse Liverpool.
Ouais.
Je veux dire, ça reste quand même Liverpool. Il y a des noms, tu peux citer. Tottenham, voilà, on a que son nom à la bouche. Et pourtant c'est une petite équipe.
Ouais.
Et franchement, et là, le fait qu'en Coupe du Monde, il arrive capitaine. Buteur, il fait la différence. Même on peut dire il a joué contre le Panama, tout ça, c'est des petites équipes. Mais justement, ça que j'aime bien, c'est que avec l'Angleterre, quoi qu'on dise, hein, c'est que quand on a vu Angleterre-Panama, on se disait c'est l'Angleterre, ils peuvent gagner un petit 2-0, 3-0, ce serait logique. Ils ont gagné un 6-1. Moi, je trouve que c'est logique un soir comme ça. Je suis désolé, aujourd'hui, quand tu vois France, quand tu voyais France, il fait tu voyais que 2-0, je disais non, c'est pas possible.
Ouais.
Quand tu vois l'historique des deux équipes, non, c'est pas possible. Moi, je suis content quand je voyais l'Allemagne face à Samara gagner 7-0. Pour moi, c'est logique.
Ouais.
C'est logique.
Ah, c'est une respect.
Pour moi, l'Angleterre.
C'est le respect. C'est du respect.
C'est le respect. Je suis désolé. C'est pas quand t'es supporter de l'équipe de France, tu payes pour aller voir un match contre les Iferois, tu vois 2-0, tu vois 2 pénalties. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vois la logique. Comment il y a
une interception et un corner.
voilà. Tu vois, on est bien d'accord. C'est pour ça que quand j'ai vu, on disait Angleterre-Panama 2-0, c'est minimum. Quand je vois 6-1, je dis. Quand on m'a dit, oh, c'est super, j'en ai 6 points, je dis, mais arrêtez de vous exciter, je trouve ça totalement normal, je vois l'historique du Panama, l'Angleterre, non, pour moi c'est normal, mais c'était pas de l'arrogance, et je suis désolé, je vois deux équipes comme ça, pour moi il y a que ça qui pouvait, refléter que ce score-là.
Ouais, ouais.
Donc, je suis désolé. Donc oui, Harry Kane sur ce match-là, il a été présent, il a marqué 3 buts, je crois, ou 4, je sais plus, quoi. Il a été présent, et même quand il s'agit de marquer des buts, quand ça devient compliqué, même s'il est dégueulasse, on sait, il est là, il marque le penalty. Il le loue pas parce que c'est pas garanti à tout le monde de marquer un penalty. Voilà. Donc voilà, il est présent pour son pays actuellement. Mmh. Et je pense que tous les ovations qu'il a actuellement, je pense que c'est mérité quoi. Voilà.
Mais tu sais pourquoi je pense que tu vois, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que sincèrement l'Angleterre va aller en finale parce qu'il y a des choses qui trompent pas. L'Angleterre n'a jamais été aussi bonne depuis je sais pas combien d'années, depuis
bon moment,
2002 je crois. Ils ont une équipe fantastique avec plein de bons joueurs partout qui ont de l'expérience qu'ils ont acquis durant l'Euro 2016 en se faisant éliminer contre l'Islande. Ça leur a bien servi, bien remis les idées en place. Et regarde, aujourd'hui, dans les groupes qu'il y avait au début de cette Coupe du Monde, les deux seuls groupes où il y a encore des équipes qualifiées, c'est le groupe G avec l'Angleterre et la Belgique qui sont encore là. Et le groupe A avec l'Uruguay et la Russie qui sont toujours là. Donc finalement, on disait... l'Uruguay, la Russie, ça va se qualifier facilement, mais attention à l'Égypte, je sais pas quoi. Et ben finalement, ce groupe-là, il était peut-être pas si facile que ça, hein, parce que la Russie, ça défend bien, ça attaque bien. Et l'Uruguay, bah, c'est solide. Et puis l'Égypte n'a rien pu faire du tout. Hein. 0 point. Ils ont mis combien de buts? Attends, 2 buts seulement. Ah ouais, c'est quand même. C'était finalement un groupe assez relevé hein, comparé à celui de l'Espagne, du Portugal qui ont eu à jouer contre l'Iran et le Maroc, qui ont failli passer. Donc les autres groupes, bah voilà, il reste plus que la France dans le groupe C. Le groupe B, il y a plus personne. L'Espagne, Portugal, Iran, Maroc, tous dehors. Le groupe D, il reste plus que la Croatie. Le groupe E, il reste le Brésil. Le groupe F, il te reste la Suède. L'Allemagne éliminée, bien sûr. Le groupe H, il reste plus personne non plus. Colombie, Japon, Sénégal, Pologne, c'est dehors. Voilà. Donc c'est quand même triste. Moi, j'aime bien regarder dès les quarts de finale les groupes qui ont disparu de la compétition. Et ça fait mal un peu parce que il y avait des bons joueurs dans certaines équipes, mais il n'y a pas de niveau collectif qui te permettait d'aller plus loin.
Ouais, c'est vrai que. Non, là, on est en train d'assister à une Coupe du Monde, ma foi, révélateur, hein, je veux dire, un renouveau.
Ouais.
J'ai envie de dire.
Ouais.
Si les nations qu'on a là, qui sont actuellement encore en compétition, peuvent, dans les années qui suivent, devenir de très bonnes équipes, c'est-à-dire continuer sur cette lancée, moi je dis pourquoi pas, hein, ça peut être aussi le soulèvement de. Ouais, le relèvement des machines, bon, on n'en est pas là, mais. Je veux dire, voilà, pourquoi pas la Suède. Continue sur cette lancée et au prochain Euro, voilà, et être en finale, pourquoi pas, enfin, tu vois, moi j'aimerais bien un peu de changement.
Ouais. Et on a souvent dit que l'Euro était beaucoup plus dur qu'une Coupe du Monde, et je pense que c'est vrai, vrai, parce que finalement, t'as quand même, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes européennes contre 2 équipes d'Amérique du Sud qui restent, et ça se justifie par voilà, les équipes présentes aujourd'hui. Et il va sûrement avoir au moins une équipe européenne en finale. Faut dire ça, parce que d'un côté, t'as la Russie, la Croatie et Suède-Angleterre. Donc, t'auras une équipe européenne en finale au moins. Et de l'autre côté, t'as 50% de chance d'avoir, parce que t'as 4 équipes, dont 2 d'Amérique du Sud. Donc, je te sors des stats à la Canal Plus et Bein Sport, mais ça va être très difficile pour une équipe d'Amérique du Sud d'aller en finale cette année. Hein. Très difficile.
Non, mais vraiment, c'est compliqué, non, mais honnêtement, hein, je suis vraiment surpris par cette Coupe du Monde, hein, c'est. Voilà, mais en même temps, je suis pas surpris dans la mesure où le jeu que proposent ceux qui sont là, je trouve que c'est correct, tu vois, c'est pas ennuyeux.
Ouais.
C'est pas. On voit pas que c'est de la chance, tu vois, comme on a pu voir avec. À l'Euro 2016, le Portugal, tu vois, comment ils sont arrivés jusqu'en finale, on a vu que c'était des matchs. Un bon match, moi je pense que le Portugal, hein, à l'Euro 2016, le seul vrai bon match qu'ils ont fait, c'est contre le Pays de Galles.
Ah, d'accord.
Le Pays de Galles, d'ailleurs c'était le déclic, parce que jusqu'à présent,
la demi-finale quoi.
Ouais voilà quoi, c'est vraiment le déclic, ils ont vraiment bien joué. Après les autres matchs, même la finale, on voit bien que bon, ils ont un peu perdu quand Cristiano est sorti, Eder qui marque, bon. Je sais pas.
Merci Lloris, hein, merci Lloris toujours.
Ah ouais, non, franchement.
Non, franchement. Ah, c'est grâce à Lloris qu'ils ont gagné les Portugais, c'est tout.
D'ailleurs, en plus, les Portugais, ils sont super reconnaissants, ils l'ont même pas invité à cette Coupe du Monde.
Ouais, ils auraient pu me faire monter dans le bus avec eux et tout.
Ouais, voilà, mais bon. Visiblement, ils se sont dit, allez, tu. Voilà, il a fait le. Hein.
Non, mais en chambre, mais moi je pense que. Par exemple, ce France-Uruguay, il va se jouer sur le gardien de but hein, aussi, hein, parce que si Lloris on fait une cagade et qu'on revient jamais au score, et ben malheureusement on va perdre 1-0 en se disant putain on aurait pu aller en finale et la gagner, on se retrouve éliminé à cause d'une erreur en défense encore une fois. Et moi je crois que ça va arriver parce qu'il s'est pris trop de buts Lloris dans cette Coupe du Monde. Contre l'Argentine, il s'est fait démonter comme il fallait, il était jamais au bon endroit au bon moment, donc. Même si on a dit qu'on avait du mal à lui mettre la faute sur lui, sur les buts, mais il faut dire Lloris, c'est un tir à un but pratiquement en ce moment, quoi. Donc, va falloir qu'il vraiment se remette en question, hein. Contre le Danemark, il a pas été dérangé. Contre le Pérou, pas trop non plus. Il a fait un bon match surtout le premier match contre l'Australie, là. Mais après, il s'est pas passé grand chose, hein. Il me fait un peu peur toujours Lloris, moi. Mandanda c'est pire, donc vaut mieux Lloris, hein, c'est sûr. Hein. Mandanda, le problème Mandanda c'est qu'il a été blessé un petit moment et que sur les coups de pied arrêtés et les corners il sort pas, et il est sur ses appuis, il est pas en mouvement. Il se prend tout le temps des buts sur coups de pied arrêtés, Mandanda. À Marseille comme équipe de France. Mais non, par, tu vois, par exemple, là, au point où on en est dans cette Coupe du Monde, les, dans les joueurs qui restent, qui ont marqué le plus de buts et qui ont été le plus performants, il reste Lukaku, il reste Kane, il reste Cavani, malheureusement, qui ne va plus jouer, je pense, et il reste Mbappé. Alors, imaginons, dans nos rêves les plus fous, que voilà, la France est en finale et la gagne. Mbappé, qui a déjà 3 buts dans cette Coupe du Monde et qui prétend un ballon d'or en fin de saison, aussi grâce à l'année qu'il a fait avec, l'AS Monaco, les 4 premiers mois avec l'AS Monaco de cette année, ça compte aussi dans le ballon d'or. Hein. Et je pense que, enfin, peut-être, ça, je pense que dans l'esprit inconscient de ce ballon d'or, ils vont peut-être penser à Monaco, ce qu'il a fait l'année passée, si tu veux, avant justement qu'il commence à donner le ballon d'or à Cristiano l'année dernière. Je ne sais pas si ça va compter un petit peu, mais dans la conscience, ça peut jouer peut-être. Et se dire que finalement, au PSG, voilà, il a été champion de France et que il n'a pas été si mauvais que ça. Et puis s'il réussit une bonne Coupe du Monde et qu'il finit dans les meilleurs buteurs, etc. Je pense qu'aussi, au niveau du marketing et du cash à se faire avec un nouveau joueur qui va lancer le ballon d'or dans une nouvelle génération, c'est un symbole.
Ouais, Mbappé, je pense, dans la mesure, à mon avis, Mbappé, je pense qu'il prendrait une autre dimension s'il signe au Real, je pense.
Bah, en tout cas, je te remercie, Yacha, d'avoir participé avec moi à cette émission pour faire justement les pronostics et l'analyse de cette Coupe du Monde des huitièmes de finale et des quarts en prévision.
Ça fait plaisir.
Et puis, on se donne rendez-vous sûrement avant le match de l'équipe de France ou après le match, je sais pas, on organisera quelque chose, on vous tiendra au courant. Donc voilà, je vous remercie et puis passez une bonne fin de journée. Salut!